la première fois donc depuis le début du confinement, le nombre de malades hospitalisés est en baisse. 513 lits libérés. Plus probant encore, pour le 7e jour consécutif, il y a plus de sorties que d'entrées dans les services de réanimation. Pas de fanfaronnade pour autant hier soir lors du point quotidien de la Direction Générale de la Santé. La situation reste sévère. Près de 32 000 personnes sont toujours à l'hôpital et le bilan global dépasse les 17 000 morts. Mais la pression sur les équipes soignantes est désormais un peu moins forte, comme le raconte le professeur Alain Cariou de l'hôpital Cochin, que nous retrouvons régulièrement sur Inter depuis le début de l'épidémie. Véronique Julia.
En Île-de-France, ce sont plus de 100 places de réanimation qui se sont libérées hier. Un vrai appel d'air, car si la tendance dure depuis maintenant une semaine, jamais le phénomène n'avait été aussi marqué. Moins de lits occupés, ça veut dire un peu plus de récupération pour les équipes soignantes. Les plannings deviennent un peu plus supportables que fin mars, début avril. Tout doucement aussi, la proportion des patients Covid dans les services de réanimation diminue. À l'hôpital Cochin à Paris, on a connu des jours en réa avec 90% de patients Covid. On est plus proche des 70% désormais, d'autant que depuis quelques jour, on voit revenir à l'hôpital des patients qu'on ne voyait plus, qui avaient littéralement disparu au plus fort de la crise. Alain Cariou dirige la cellule de crise Covid de l'hôpital.
C'est des infarctus, des problèmes neurologiques, des intoxications, des problèmes qui ne sont pas liés au Covid. C'est vraiment quelque chose qui nous laisse perplexes et nous inquiète, parce que ça signifie que des gens qui ont eu des problèmes médicaux aigus ne sont pas arrivés jusqu'à nous.
À l'hôpital Cochin, il n'est pas encore question de reprogrammer les opérations annulées mi-mars en prévision de l'épidémie. Tant que le plateau sera aussi haut, ce ne sera pas d'actualité. On se félicite en revanche d'avoir pu, malgré la crise, s'occuper en plus du Covid ces dernières semaines, des opérations qui ne pouvaient pas attendre, sans perte de chance pour le patient.
Dans ce contexte donc pourtant favorable, l'autre information ce matin, c'est la découverte d'un nouveau foyer de l'épidémie. Et ce foyer, c'est le porte-avions Charles de Gaulle, avec près de 700 marins positifs au Covid-19 et 30% n'ont pas encore reçu les résultats de leurs tests. Ce sont des chiffre annoncé hier soir par l'armée. 20 malades sont pris en charge à l'hôpital militaire Sainte-Anne à Toulon, dont un en réanimation. Le porte-avions est rentré prématurément dimanche dernier à Toulon. Aurait-il dû rentrer plus tôt? La question se pose après le témoignage fort d'un des marins du Charles de Gaulle que Sophie Glotin a pu joindre.
Un marin qui souhaite garder l'anonymat, qui ne s'exprimera pas à notre micro. Ce père de famille, lui-même testé positif au Covid-19, est confiné depuis dimanche sur un site militaire varois. L'homme raconte avoir l'impression d'être un mouton parqué dans une chambre. Il partage quelques mètres carrés avec un de ses collègues. L'armée a joué avec notre santé, avec notre vie, s'agace l'homme. Selon lui, le commandant du porte-avions aurait proposé d'interrompre la mission dès la mi-mars, quand le Charles de Gaulle était en escale à Brest. À ce moment-là, dit-il, plusieurs marins présentaient déjà les symptômes du coronavirus et le Pacha aurait souhaité confiner immédiatement l'équipage. Toujours selon ce marin, cette proposition aurait été refusée par le ministère des Armées. Le ministère ne nous a pas confirmé l'information, mais précise que la question sera traitée dans l'enquête de commandement ordonnée par le chef d'état-major de la Marine.
Et la ministre des Armées, Florence Parly, doit être entendue demain par la commission défense de l'Assemblée.
Il est 7h05, Agnès. Nécessaire, mais pas suffisante, l'aide du gouvernement aux plus démunis, selon la Fondation Abbé Pierre.
Son président Christophe Robert salue la décision d'accorder 150 euros pour les bénéficiaires des minima sociaux, plus 100 euros par enfant à charge. Mais certains ont été oubliés, notamment les jeunes, sans ressources de moins 25 ans. Mais pas seulement, Christophe Robert.
Je pense aussi à ces personnes âgées qui sont bénéficiaires du minimum vieillesse, qui ne sont pas concernées, à ces bénéficiaires de l'aide adulte handicapé qui... Pour beaucoup sont seuls et parfois précaires. Puis il y a la question du montant. C'est pas rien de donner 150 euros, mais vous voyez bien que pour une personne seule, sur les deux mois de confinement, ça représente 2,50 euros par jour. C'est très peu. C'est vrai que nous, les associations, on était sur une aide d'urgence qu'il fallait apporter de l'ordre de 250 euros par personne et par mois. Donc il y a une question de montant, il y a une question aussi de durée liée au confinement. Quand j'entends Bruno Le Maire qui dit « il faudra qu'on aide le secteur économique aussi longtemps que la crise durera », eh bien, je pense qu'il faut que nous fassions également la même chose en ce qui concerne la situation sociale des plus fragiles dans notre pays.
Le président de la Fondation Abbé Pierre, interrogé par nos confrères de France Info à Paris, la mairie propose des échelonnements pour les locataires des bailleurs sociaux. La secrétaire d'État Christelle Dubos ajoute que les familles en difficulté peuvent demander une aide auprès de leur CAF, la caisse d'allocation familiale, qui rappelle que toutes les prestations prestations sociales ont été maintenues, car plus d'un salarié sur trois est aujourd'hui au chômage partiel, soit 8 700 000 personnes, chiffre communiqué hier par la ministre de l'Emploi. Chômage partiel, compensation, question que se posent aussi les agriculteurs. Depuis une semaine, la FNSEA en Poitou-Charentes, mais aussi en Corrèze et en Haute-Vienne, a ouvert une plateforme téléphonique. Marie Dorsay.
En appelant le numéro de cette plateforme téléphonique,
FNSEA, bonjour.
On ne tombe pas sur un serveur vocal, mais bien sur l'un des 8 juristes de la FNSEA qui se relaie tous les matins. Nicolas Touchard est le directeur de la FDSEA des Deux-Sèvres.
Les questions, ce n'est pas des questions générales, c'est qu'on va répondre aux questions précises individuellement à chaque employeur. J'ai mon fils qui travaillait à l'extérieur, qui veut venir me donner un coup de main. J'ai un salarié que je ne peux plus occuper parce que j'ai perdu un marché. Comment je peux gérer du chômage partiel avec un apprenti. Et c'est toutes les questions autour de la situation un peu particulière de confinement qu'il peut y avoir aujourd'hui. Toutes les questions autour de l'organisation du travail, de la protection des travailleurs.
La hotline est ouverte à tous les employeurs du milieu agricole et pas seulement aux adhérents de la FNSEA. Marie Robin est la directrice de la FDSEA de la Vienne et l'une des juristes.
On avait quelques retours de nos adhérents qui, eux, nous appelaient déjà. Et on s'est dit, bon voilà, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'accès ou moins d'accès et il fallait répondre à ces personnes-là. On verra à la fin, on fera le bilan si c'était nécessaire ou pas. Mais la preuve est qu'il y a quand même des personnes qui appellent.
En une semaine, la plateforme téléphonique a reçu une vingtaine d'appels.
Une plateforme qui fonctionne du lundi au vendredi de 9h à midi et le numéro est le 05 86 03 13 14. Yves Decan y reviendra dans le grand rendez-vous tout à l'heure à partir de 12h30 sur Inter. Les éleveurs de bœuf dénoncent eux des prix d'achat trop bas, inférieurs aux coûts de production. Un comble, disent-ils, au moment où l'indépendance alimentaire du pays est une priorité. La Fédération Nationale Bovine appelle donc les éleveurs à retenir au maximum leurs animaux à la ferme pour faire pression sur les abattoirs et les distributeurs. Il faut rétablir les liens entre les personnes âgées et leurs familles. L'appel est lancé ce matin par la présidente du groupe de maisons de retraite Corian. Sur le plan humain, on ne peut infliger de telles mesures de séparation plus longtemps, estime Sophie Boissard dans les colonnes du Figaro. Il pourrait s'agir de visites en plein air, hors les murs, pourquoi pas en présence de volontaires qui seraient testés, détaille-t-elle. Le groupe Corian, qui gère 308 établissements en France et qui a enregistré 356 décès depuis le début de l'épidémie. Il est 7h08 sur Inter. Les uns après les autres, les pays européens présentent leur plan de déconfinement. Et hier, c'était l'Allemagne avec une première étape le 4 mai et le retour à l'école d'une partie des élèves. Nathalie Versieux est à Berlin pour France Inter.
À compter du 4 mai, les salons de coiffure, certains magasins, les bibliothèques ou les zoos pourront rouvrir leurs portes. Les écoles accueilleront par étapes les élèves, en priorité ceux qui doivent passer un examen de fin de cycle, mais des pans entiers de la vie sociale resteront fermés. Jardins d'enfants, universités, cafés et restaurants, manifestations sportives, rien de tout cela ne fonctionnera avant la fin du mois d'août. Angela Merkel a défendu une stratégie de petits pas. Nous devons d'abord vérifier si avec les petits pas que nous allons faire, ouverture d'une partie des commerces, des classes du bac et du brevet, si avec ces petits pas donc, nous allons au-delà de nos limites ou pas. On pourra dresser un premier bilan au bout de 2 à 3 semaines et décider ensuite de ce qui sera encore possible. La priorité de Berlin est d'éviter l'apparition d'une seconde phase de la pandémie. Depuis des semaines, Angela Merkel devait faire face à la pression des régions les plus avancées dans la lutte contre le coronavirus, demandant un rapide retour à la normale alors que l'économie allemande est entrée en récession en mars. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
Et aux États-Unis, c'est aujourd'hui que Donald Trump doit présenter les lignes directrices pour faire repartir l'économie alors que le pays a enregistré hier son bilan le plus lourd, 2569 décès en 24 heures. Retour en France avec la difficile prise en charge des migrants en cette période d'épidémie. À Calais, un millier de migrants seraient encore à la rue selon les associations qui tirent la sonnette d'alarme. Mathilde Hémy.
La clé pour éviter toute contamination, c'est l'hébergement, s'accordent préfecture et association. Un hôtel du Boulonnais est réquisitionné. D'autres centres sont plus loin du littoral, accentuant le risque de voir les migrants ne pas respecter le confinement. Et puis il y a tous ceux qui restent encore dehors. Yann Manzi de l'association Utopia 56.
C'est des tentes les unes sur les autres. Les dispositifs sanitaires sont très très loin d'être suffisants. suffisant pour pouvoir respecter les gestes barrières, même s'ils ont été informés de tout ce qu'il faut faire.
Utopia 56, comme l'auberge des migrants, continue leur maraude, mais leurs bénévoles sont verbalisés. Yann Manzi.
Moi, j'ai été verbalisé 4 ou 5 fois, non-respect des mesures de confinement. Le harcèlement continue pendant cette période de Covid où on devrait tous se serrer les coudes.
Ces bénévoles verbalisés n'ont pas respecté les consignes, dit la préfecture du Pas-de-Calais, qui rappelle qu'un dispositif de surveillance Covid est en place et que la permanence d'accès aux soins reste assurée. Mais il n'y a plus de navette d'accès, souligne Aurélie Denoual de Médecins du Monde, car Utopia 56 a dû les suspendre.
La seule possibilité, c'est via les transports en commun. Les chauffeurs de bus empêchent la montée, prétextant le fait que les exilés ne respecteraient pas les mesures barrières. On se heurte à une réelle difficulté d'accessibilité.
D'après la préfecture, 5 migrants ont contracté le coronavirus, 2 sont guéris, 3 toujours à l'isolement.
Le difficile travail des associations à Calais, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. La liste des festivals annulés s'allonge inexorablement. Hier soir, c'est l'organisateur des Vieilles Charrues qui a jeté l'éponge. Le plus important festival de musiques actuelles devait se tenir du 16 au 19 juillet à Carré, dans le Finistère. Son organisateur, Jérôme Troarel, s'en explique au micro d'Anaï Gaugt.
Il faut se rendre à l'évidence, le festival n'était pas possible à organiser. C'est des décisions, et cette décision qui est la plus difficile à prendre dans l'histoire du festival des Vieilles Charrues, c'est aussi la décision la plus responsable et la plus sage. Et il était important d'être très transparent avec les festivaliers et le public, et puis également, en parallèle, préserver l'avenir du festival. Parce que l'objectif, même si l'arrêté d'interdiction n'est pas en vigueur pour le moment sur nos dates, j'espère que les choses évolueront et on travaille en ce sens, eh bien, au-delà d'être contraint d'annuler dans ces conditions, on va être très combatif. On va devoir trouver des solutions avec tous ceux qui œuvrent et tous ceux qui font le festival pour trouver les solutions et revenir encore plus fort l'année prochaine.
Et à 8h20, justement, le ministre de la Culture, Franck Riester, sera l'invité du grand entretien. Calendrier totalement chamboulé également pour les compétitions sportives. On parlait hier du report du Tour de France au mois de septembre. Et pour le rugby, qu'en est-il? Une réunion des présidents de clubs s'est tenue hier soir. Plusieurs scénarios sont à l'étude, Vincent Pellegrini.
Premier scénario, la situation sanitaire s'améliore d'ici la mi-mai et les entraînements reprennent progressivement, avec les précautions nécessaires. Il est alors envisagé de reprendre à la fin du mois de juin en disputant directement les phases finales, soit 3 week-ends de compétition et une finale au Stade de France le 18 juillet, à une date où, a priori, il sera possible d'accueillir de nouveau du public. Deuxième scénario, le top 14 ne reprend pas avant l'été et les phases finales du championnat se disputeraient alors en août, juste avant le début de la saison prochaine. C'est à la fin du mois que la Ligue nationale de rugby choisira entre ces deux options. Ce qui est certain, c'est que comme prévu, les 7 dernières journées de la saison régulière ne se joueront pas, ce qui devrait pousser le diffuseur Canal+ à ne pas verser l'intégralité des droits télé d'une saison tronquée. La situation financière des clubs s'en trouverait fragilisée.
Et puis pour le hand, la décision a été prise hier, la saison est terminée et le champion cette année, c'est le PSG.
Félicitations, merci Agnès Soubiran.